Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre quatrième rencontre autour des conditions du débat. Et les conditions que nous allons étudier ce soir sont les conditions démocratiques. Matière à penser, ce soir avec Pierre-Henri Tavoyot, philosophe qui enseigne à Sorbonne Université et à Sciences Po, et préside également le Collège de philosophie, qui vient de publier un livre intitulé « Comment gouverner un peuple roi » et avec qui nous allons parler des conditions que je prononçais délibérément en dotant démocratique du débat, les conditions qui ne reposent pas seulement sur le peuple, mais paradoxalement aussi sur le pouvoir. Bonsoir Pierre-Henri Tavoyot.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là ce soir.
Merci beaucoup.
J'ai fait un peu de rhétorique en vous présentant Pierre-Henri Tavoyot, en détachant délibérément les deux éléments qui composent le mot de démocratie. Parce que pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, dans votre livre « Comment gouverner un peuple roi », qui s'intitule aussi « Traité nouveau d'art politique », l'une des grandes originalités, il me semble, c'est d'insister pour comprendre la démocratie, non seulement sur le peuple, « démos », mais sur le pouvoir, kratos ou kratein, le commandement, l'art de gouverner, vous assumez la question du pouvoir, Pierre-Henri Tavoyot, pour entrer tout de suite dans le cœur du sujet, et même comme une condition de la liberté, de la démocratie. Dans démocratie, il y a cratie.
Oui, c'est ça. C'est qu'on a souvent tendance à privilégier le terme de peuple, parce que ça paraît être d'ailleurs aussi une énigme, ce peuple, et puis ça paraît l'élément de la liberté. C'est, on se dit que pour que ce peuple existe, il faut que le pouvoir soit tout petit. C'est ça un peu le sentiment qu'on a, et parfois même que le pouvoir soit inexistant. Et pour que les individus aient le pouvoir, ou pour que le peuple ait le pouvoir, il faut qu'il n'y ait pas de pouvoir. Or, en fait, c'est une illusion totale. C'est que, en fait, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et donc, il faut insister autant sur le peuple que sur le pouvoir. Et ça, on a beaucoup de mal.
Oui, mais alors, l'une des questions de fond, puisqu'on est tout de suite dans le vif du sujet, et après, on verra comment on rejoint la question du débat, c'est que le pouvoir semble une relation dissymétrique, disons. Il y a commander et obéir. C'est au cœur de votre livre, d'ailleurs, une sorte d'éloge de l'obéissance raisonnée, pas de n'importe quelle obéissance. Donc, obéir, c'est un terme qui nous fait bondir, justement, parce que dans démocratie, on a l'impression d'abolir cette dissymétrie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple sur lui-même. On a une impression d'être des deux côtés du miroir, finalement. Et ce à quoi on résiste, c'est cette dissymétrie de la relation de pouvoir.
Oui, parce que, en fait, l'origine des démocraties, ça a été une libération des peuples contre les pouvoirs existants, qui étaient les pouvoirs de la communauté, les pouvoirs de la tradition et les pouvoirs absolus, l'absolutisme. Et en fait, on a, j'allais dire, la démocratie est née par la désobéissance à l'égard de ces pouvoirs traditionnels ou des pouvoirs du passé. Mais en vérité, quand on y réfléchit même avec un peu de bon sens, on se dit, mais pour être citoyen, il faut quand même, pas désobéir ou pas ne pas se soumettre 24 heures du temps, parce qu'il faut renoncer un tout petit peu à son ego, il faut être attentif aux autres. Et donc, au sens étymologique, il faut obéir. Obéir, ça veut dire, c'est audire, c'est-à-dire prêter l'oreille. Or, on ne fait que la prêter, on ne la donne pas et on ne donne pas sa volonté. Mais il faut simplement être attentif aux autres. Et donc, je ne vois pas comment on peut même concevoir l'idée de citoyenneté sans ce moment d'obéissance qu'on a souvent tendance à confondre avec la servitude. Or, la servitude, en fait, nous empêche de grandir, nous installe dans l'infantilisme, dans l'infantilisation. Tandis que l'obéissance, c'est le moyen de grandir.
Oui, mais en même temps, on n'échappe pas entièrement à cette question de la dissimulation. C'est-à-dire, au fond, qui a le droit de commander, qui a le droit d'obéir, et à cette question de la justification qui ne peut ne pas trahir entièrement la légalité. Comment concilier ? Parce que, justement, dans cette question du pouvoir du peuple, il y a un paradoxe dans lequel tout le monde se débat, justement.
Oui, parce que la grande définition de la démocratie, c'est celle de Lincoln, qui est formidable, admirable. C'est la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà, c'est tellement beau d'ailleurs qu'on l'a mis dans notre constitution à nous. Simplement, il y a deux énigmes colossales, c'est-à-dire que effectivement, qu'est-ce que gouverner, comment gouverner, ça c'est la première énigme. Alors ça, on a toute la tradition des traités d'art politique qui date de très longtemps, et d'ailleurs qu'on a tendance un peu à abandonner. Et puis de l'autre côté, il y a cette énigme incroyable et à laquelle sur laquelle on fait un peu l'impasse, c'est-à-dire qui est le peuple. Voilà, c'est la grande question. Alors, en général, on l'a défini comme une évidence. C'est-à-dire qu'on se dit le peuple, finalement, c'est les gens de la rue.
C'est tout le monde.
C'est tout le monde. C'est le prolétariat, c'est les élus, c'est voilà, ceux qui souffrent. On a une sorte d'évidence. Et puis, on voit, ça marche pas. Alors, face à ça, le deuxième réflexe, c'est de dire, on sait pas qui est le peuple, mais on sait très bien qui sont les ennemis du peuple. Ça, c'est plus facile. Et donc, on va pointer les élites, on va pointer les assistés, on va poser les immigrés. Là, on sait pas qui on est, mais on sait contre qui on est. Et là non plus, ça ne fonctionne pas. Alors, troisième moment, en général, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, mais écoutez, je veux tous vous réconcilier, le peuple, c'est moi. Voilà. Bon, et là...
Vous voyez venir.
Voilà, là non plus, ça, évidemment, ça ne marche pas. Et donc, ça tourne en rond. C'est-à-dire qu'on repart sur une pluralité, etc. Alors, il me semble que si on affronte vraiment, clairement, le problème du peuple, c'est qu'il faut d'emblée entrer dans... Enfin, renoncer à la mystique du peuple, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un seul peuple et dont on pourrait, j'allais dire, prendre la main, qu'on pourrait voir, qu'on pourrait incarner et entrer dans une logique, qui est la logique libérale, je sais que le mot fait hurler tout le monde, mais c'est la logique libérale d'une pluralité de figures du peuple.
Alors vous distinguez différents sens du mot peuple, différentes figures du peuple. Vous allez nous expliquer pourquoi c'est libéral, sans doute parce que précisément on distingue des activités, des registres et on sépare et on protège aussi des espaces qu'il ne faut pas mélanger.
Voilà, c'est ça le régime de la séparation.
Oui,
le libéralisme, c'est effectivement d'assurer un certain nombre de scissions. C'est pour ça qu'en fait, on déteste le libéralisme en France, mais on est tous fondamentalement libéraux. C'est-à-dire qu'on on se méfie du pouvoir, on a envie de défendre sa petite société, en même temps, on n'aime pas trop l'égoïsme. Enfin,
on déteste le libéralisme parce qu'on se fait une idée du peuple, justement, comme unité, et indivisible, volonté générale. Voilà. Et au fond, dès qu'on se sépare des idées de peuple, on peut être à la fois d'un côté dans le populaire, de l'autre côté dans l'opinion, on a l'impression de trahir. Enfin.
Oui, on a l'impression de trahir. Alors, c'est vrai que si on prend les visages qui se présentent à nous, le premier peuple, c'est la société, c'est-à-dire les individus tels qu'ils vivent ensemble et qui tissent des liens, c'est ce qu'on peut appeler le peuple-société. Après, il y a un deuxième peuple qu'on appellerait l'État, qui serait non pas simplement le fait de vivre ensemble, mais le fait de vouloir vivre ensemble. L'État caractérise cette durabilité, c'est très rousseauiste, c'est l'idée de volonté générale, c'est un deuxième peuple. Et finalement, il faut assurer l'équilibre. Ça, c'est le libéralisme. Il ne faut pas trop de société, parce que la société, ça peut être des rapports de force, et pas trop non plus de pouvoir. Et les deux s'équilibrent entre eux.
Alors, c'est les deux premiers sens que vous donnez au mot peuple. On pourra y revenir. D'ailleurs, est-ce que vous prenez toute la charge politique, conflictuelle, presque guerrière qu'il y a dans ces deux notions, c'est-à-dire d'un côté le conflit social quand même dans la société, d'un autre côté quand même le conflit national aussi dans le peuple-État. Mais avant d'y venir, Pierre-Henri Tavoyau, juste pour revenir une seconde sur la question du pouvoir, avant de revenir sur le peuple, démos et crassi et kratein, cette nécessité d'avoir un pouvoir, c'est-à-dire d'obéir et de commander, d'avoir une dissymétrie, est-ce que pour vous elle est seulement pragmatique? C'est-à-dire il faut du gouvernement parce que sinon on meurt tout simplement, parce qu'il faut bien que quelqu'un décide. Et donc au fond c'est une sorte de renonciation à un principe majeur qui serait l'égalité au nom du pragmatisme. Ou bien est-ce que c'est plus profond? Est-ce que pour vous la dissymétrie fait partie même de la construction de l'égalité, de la construction de l'humain, d'une sorte de fondement plus profond? Parce que si c'est le pragmatisme, ça risque de ne pas suffire.
Mais c'est clair. Si c'est, je pense que le pouvoir est un élément essentiel de la construction de soi. Et là, il ne faut pas parler simplement de la société, il faut parler de l'individualité. J'allais dire, la grande illusion du self-made man, de celui qui se construit lui-même, c'est de penser qu'on n'a pas besoin des autres pour être soi-même. Or, il me semble qu'on a besoin des autres pour être soi-même, non seulement parce qu'on reçoit des autres, mais parce qu'on donne aux autres. Pour grandir, on a besoin de faire grandir.
Qu'on rejoint l'autre partie de votre travail philosophique qui porte sur les âges, sur la construction de l'individu concret, vivant.
Et la bonne autorité, si je puis dire, pour la résumer d'une formule, qui à mon avis n'a pas du tout disparu de l'univers démocratique, c'est l'autorité qui fait grandir à la fois celui qui l'exerce et celui qui s'y soumet. C'est la bonne formule de l'autorité. Et de ce point de vue-là, elle n'a pas pris une ride, et non seulement elle n'a pas pris une ride, mais je pense que nous accédons aujourd'hui en démocratie à la pureté de cette forme d'autorité. Donc il n'y a pas de crépuscule de l'autorité, à mon avis, c'est plutôt l'aurore. Je sais que j'ai une thèse un peu divergente, mais vous voyez, Frédéric Worms, il me semble qu'on est dans une logique de construction, et ce pouvoir, il n'est pas maléfique, et c'est une très grande illusion, à mon avis, qui vient de l'anarchisme, qui est une position un peu adolescente, à mon sens. Et voilà, voilà, c'est bien d'être adolescent.
Faut passer par là.
Faut passer par là.
Vous êtes passé par là comme moi, comme nous tous, j'espère.
Oui, comme nous tous. Et voilà, il y a une dimension adolescente de notre société qu'on peut voir aujourd'hui.
Vous avez dit, ni Dieu ni maître, ni parents.
Voilà,
exactement.
J'ai trouvé que mes parents étaient des vieux cons et j'essaye en tant que parent d'être un vieux con à l'égard de mes enfants, ça les aide à grandir. Voilà.
C'est gentil à vous.
Voilà, c'est un effort.
C'est pas
trop
quand même.
C'est difficile.
Vous pouvez quand même rester jeune et intelligent quand même.
Mais tout à fait. Mais voilà, je pense que c'est cette dimension. Alors, il faut être tolérant, en effet, à l'égard de cette insouciance adolescente, mais je pense qu'une démocratie ne devient véritablement consciente d'elle-même que quand elle accepte cette dimension constructive du pouvoir.
Mais alors, Pierre-Henri Tavoyot, là aussi, on est au cœur du sujet démocratique, de ce qui nous constitue. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas retomber dans le paternalisme qui était pré-démocratique, c'est-à-dire ces fondations de l'autorité sur une nature qui fait qu'il y a des enfants par nature, des parents par nature, et que l'enfant doit obéir au père? Est-ce que, quand même, on peut fonder une démocratie, une autorité démocratique, sans passer par la case de l'égalité, ou en tout cas de l'interdiction de l'abus de pouvoir? C'est-à-dire que les parents peuvent pas faire n'importe quoi aux enfants. En droit, les enfants seront un jour des parents, justement, comme vous le disiez très bien. Et donc, il faut arriver à fonder une autorité sans contredire l'égalité. C'est tout notre problème.
C'est exactement ça. Il y a une vieille question philosophique, mais au fond, qui paraît un peu absurde, c'est à qui appartiennent les enfants. Et donc, première réponse, on va dire, réponse traditionnelle, ils appartiennent à leur famille, ou à l'État, ou à la nation. C'est allons enfants de la patrie. Bon, on voit que c'est bien. Aujourd'hui, ça nous choque et on veut pas ça. Donc, on va dire, non, aujourd'hui, les enfants, ils s'appartiennent à eux-mêmes. Ce sont des individus. Mais les enfants qui s'appartiennent à eux-mêmes, c'est des enfants abandonné. Et en fait, la bonne réponse, et c'est ça qui est notre critère, c'est les enfants appartiennent à l'adulte qu'ils seront demain. Ça, individuellement, la tâche du parent, la tâche de l'éducateur, c'est d'occuper temporairement cette place.
D'accord.
Et donc, il n'y a aucun risque de paternalisme, puisqu'on est parent, mais ce parent n'est pas ancré dans son rôle de parent, son but, son objectif, c'est de faire grandir.
Donc, alors, un peu chez Rousseau, chez Kant,
oui, Pierre Rita,
vous avez beaucoup travaillé. D'ailleurs.
Voilà, ce sont les bons auteurs, si je puis dire, mais évidemment, on peut toujours se dire si c'est du paternalisme caché. En réalité, le critère est parfaitement clair. C'est une autorité de service. Son unique objectif, c'est de faire grandir les autres.
Mais j'insiste un peu, Pierre Rita Voyou, parce que autorité de service, j'ai peur qu'on retombe quand même dans le pragmatisme. C'est-à-dire, voilà, il faut des parents. Parce qu'au début, l'enfant, comme dit Rousseau, il naît faible, il a besoin de tout, il naît misérable, il a besoin de secours, etc. Et au fond, quand même, pour que cette autorité reste démocratique, il faut admettre quelque chose comme l'égalité, pas seulement plus tard, mais dès maintenant, c'est-à-dire des limites à cette autorité, une forme de constitution. Et finalement, on peut aussi intervenir, vous disiez à qui appartiennent les enfants, s'il y a maltraitance dans une famille, l'État peut intervenir, il y a des limites au pouvoir.
Mais la maltraitance, c'est précisément l'autorité qui s'exerce au détriment de l'enfant, donc d'une certaine façon, qui ne fait plus grandir l'enfant. Et c'est pour ça que la dimension politique est intéressante, et j'entends bien ce que vous dites, et c'est pour ça que nous avons besoin de démocratie. Parce que sur certains secteurs de la société, nous avons besoin des autres pour grandir. Et puis sur certains, nous avons besoin des autres pour les faire grandir. Et donc une société démocratique, c'est une société où chacun a besoin des autres pour grandir. Et c'est ça le miracle de la démocratie. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du tout un désert spirituel, en regrettant les religions d'avant. C'est le truc, si je puis dire, le plus génial.
Où on est mutuellement les enfants les uns des autres.
C'est extraordinaire.
Par exemple, un malade va avoir besoin du médecin, mais le médecin va avoir besoin de l'artiste pour grandir lui aussi. L'artiste
et cas échéant, il peut avoir aussi du malade pour tisser un lien.
Malade,
voilà. Et donc, on a ici des rapports de réciprocité. Alors, c'est pas du tout la société anarchiste, parce que il faut un élément de pouvoir qui régule, qui donne des règles du jeu dans cette dimension. J'allais dire, la société à elle-même, ça c'est le grand rêve anarchiste, et j'allais dire, j'y croirais très volontiers. Là, pour le coup, il faut redevenir un peu pragmatique. Si ça fonctionnait, si on avait des exemples de fonctionnement de ce type. Or, je n'en vois aucun dans l'histoire. Si dans des secteurs, on peut pas citer Internet, Wikipédia, les petits éléments de collaboratifs, etc. Mais sur la totalité de la société, l'anarchisme est un rêve.
Alors, anarchisme, Pierre-Henri Tavoyot, donc c'est l'absence de principe ou de pouvoir, là aussi. Donc, on retrouve cette question chez vous de la nécessité du pouvoir. Et pardon de vous embêter encore un peu avec ça, mais alors, comment est-ce qu'on définit pouvoir légitime? Est-ce qu'il faut quand même définir ces limites du pouvoir, finalement? La démocratie, c'est toujours fondée aussi sur l'idée, pas seulement du fondement du pouvoir du peuple, mais du fondement des limites de tout pouvoir politique, et y compris de celui du peuple.
C'est pour ça qu'en intégrant à cette dimension au peuple, on voit très bien que dans les deux premiers concepts de peuple, société et État, les deux se limitent. C'est-à-dire que s'il y a trop d'État, La société hurle ou se proteste. S'il y a trop de sociétés, l'État est là pour réguler. Puis, il faut un troisième peuple qui assure aussi l'équilibre. C'est ce que j'appelle le peuple opinion, c'est-à-dire l'espace public.
L'opinion publique.
L'opinion publique.
Ça vous donne une légitimité. C'est assez nouveau en philosophie, finalement.
Oui.
De dire c'est pas seulement quelque chose d'informe, quelque chose qui fait l'objet des sondages, ou de sorte qu'en France, on a l'habitude de critiquer tout en y étant complètement accoutumé, même intoxiqué.
C'est ça.
Mais là, c'est très fort de donner, enfin, c'est dans les conditions du débat dont on va parler tout à l'heure, de donner un statut à l'opinion.
Oui, c'est une forme du peuple. Alors, on peut aller jusqu'à dire que c'est une forme de démocratie ou de dictature aussi, l'opinion. Mais c'est ça, ces trois peuples, société, État, opinion. Le rêve des libéraux, si je puis dire, c'était que ces trois peuples sagement s'équilibrent entre eux et voilà, fonctionnent harmonieusement. Et c'est là où je quitte un tout petit peu le libéralisme, parce que je pense que il y a une tendance, alors c'est pas un danger mortel, c'est pas une fatalité, mais il y a une tendance pour faire en sorte que chacun de ces peuples dévore les deux autres. C'est-à-dire que la société dévore à la fois l'espace public dans un divertissement, dévore l'État dans une sorte de politique compassionnelle, l'État peut dévorer les deux autres, etc. Et donc c'est là où je pense qu'il faut faire un pas de plus. Un pas de plus qui nous permette de penser le peuple non pas comme ces trois images, mais comme une méthode. C'est ce que j'essaierai de développer.
Alors, il y a cinq peuples en tout, on va y arriver, mais déjà sur cette séparation des peuples, comme certains parlent de la séparation des pouvoirs, ou comme un grand philosophe libéral américain, Michael Walzer, parle de séparation des sphères de justice. Ce que vous voulez dire, c'est que chacun d'entre nous est dans tous ces peuples.
Absolument.
Et que de même que Walzer dit, nous sommes dans la société marchande, et puis dans la société politique, et puis il y a corruption. Quand il y a un mélange des deux, c'est la corruption et c'est l'injustice. De même, vous diriez, nous sommes un peu opinion, un peu citoyen, un peu dans le loisir social, dans les activités sociales. Et ce qu'il faut, c'est surtout équilibrer qu'aucune de ces sphères n'empiète sur l'autre.
C'est pour ça que le quatrième peuple, si je puis dire, c'est celui des règles du jeu.
Qui organise le jeu.
Qui organise l'entente. Le peuple, c'est pas une figure, c'est pas un visage, c'est une méthode. Pour le dire d'une formule, le peuple, le vrai peuple de la démocratie, c'est la capacité collective d'agir. Voilà, c'est si on voulait condenser ça dans une formule, capacité collective d'agir, c'est-à-dire comment ces trois figures de peuple vont jouer ensemble. Et ça passe, d'après ce que je dis, mais après bien d'autres, c'est pas, je sors pas ça de mon chapeau.
Vous reformulez, mais en fonction des besoins d'aujourd'hui.
Voilà, ça passe par quatre moments qui définissent vraiment fondamentalement et essentiellement ce qu'est un peuple. Il faut des élections, il faut une délibération, donc votre sujet sur les débats.
Le débat, on va y venir.
Voilà, il faut des décisions et il faut de la reddition de comptes, c'est-à-dire il faut rendre des comptes. La responsabilité. Donc ces quatre éléments consubstantiellement définissent ce qu'est le peuple de la démocratie. S'il en manque un seul, ou si un seul est un peu oublié, on n'est plus en démocratie.
Mais pourquoi est-ce que vous dites que ça définit le peuple et non pas simplement les institutions ? En quoi est-ce que ces institutions-là sont-elles une dimension du peuple ? On a l'habitude, quand on parle de peuple, d'imaginer le peuple au sens de la nation, parfois au sens de la culture, de l'identité nationale aussi, parfois au sens du populaire, du sens social du mot peuple. Mais dire que les institutions sont une figure du peuple, c'est assez fort, là aussi. C'est une thèse assez...
Oui, c'est une conception procédurale de la démocratie. C'est-à-dire que si on ne respecte pas cette procédure qui passe par élection, discussion, délibération, décision et reddition de comptes, le peuple disparaît.
Commenter le mot procédural, l'essentiel dans une décision, pour qu'elle soit démocratique, ça n'est pas son contenu. C'est la méthode, façon dont on a décidé est aussi importante que ce qu'on décide en démocratie.
La façon dont on a décidé et dont on peut, après, postérieurement, contrôler cette décision.
Pierre-Henri Tavoyau, en quoi cette façon de décider définit-elle non seulement des institutions, un système,
mais des mœurs aussi,
mais une dimension de nous-mêmes? Parce que quand vous dites peuple, ça veut dire que pour vous, cette façon de décider est aussi importante que la façon de vivre, que la façon de faire état, de faire nation, de faire
oui, ou même d'ailleurs de décider dans une famille, c'est-à-dire on peut aussi l'appliquer.
Donc quand on décide dans une famille, c'est une partie de notre vie, finalement.
Oui, c'est une partie de notre vie. C'est pour ça que je trouve que cette procédure intègre les individus dans une collectivité sans que ces individus ne perdent rien de leur individualité. C'est pour ça que c'est ça qui fonctionne bien.
Donc vous diriez de la même chose des familles, finalement. Une famille, c'est pas seulement un fait
l'élection, c'est à débattre.
Vous voulez pas soumettre au vote qui va être père, ça se décide pas
ça
par un vote.
Ça se décide pas par un vote, voilà.
Ça se décide comment d'ailleurs? C'est une question
intéressante. C'est une forme d'élection, des affinités électives, comme on dit.
C'est-à-dire, c'est quand même la cité au sens large qui décide qui est père selon la loi.
Absolument.
Oui, c'est pas la nature,
c'est
d'ailleurs.
C'est pas la nature, oui, tout à fait.
La nature peut à des géniteurs.
Je suis d'accord avec vous.
Non, mais c'est quand même intéressant parce qu'on retrouve cet enchaînement, d'ailleurs très crucial, des sphères. C'est-à-dire que l'État a défini une certaine façon de faire famille qui elle-même conditionne les façons de faire État. C'est-à-dire la démocratie suppose certaines modes de vie.
Oui, et puis on le voit, si il en manque un, c'est-à-dire si on n'est pas responsable individuellement ou collectivement, la démocratie disparaît. La Russie, par exemple, il y a des élections, il y a de la délibération, il y a des décisions, mais il n'y a pas de reddition de comptes, ce qui fait que la démocratie n'existe pas.
Mais alors, en un mot, pour poursuivre l'analogie avec la famille, on peut appeler famille, donc selon vous, non seulement une façon de vivre ensemble concrètement, mais une façon d'organiser la décision collective.
Oui, il y aurait effectivement de ça.
La famille est aussi une méthode.
La démocratisation de la famille, c'est un thème que les sociologues ont bien développé. C'est aussi une méthode. Et je trouve que c'est ce que l'on applique aussi au niveau de la cité.
Et le cinquième peuple avant qu'on...
Le cinquième peuple, c'est l'idée qu'on peut pas aimer une procédure. C'est pour ça que la quatrième n'est pas suffisante. Ah. Il faut un peu de substance. Et donc, le cinquième peuple, c'est le peuple récit, c'est-à-dire comment chaque nation met en récit cette procédure. Et là, les traditions sont très différentes entre la démocratie américaine, la démocratie indienne, la démocratie coréenne, la démocratie taïwanaise, la démocratie française. On ne comprend pas d'ailleurs comment les autres peuvent être démocratiques, mais voilà, c'est un certain récit que l'on fait de soi.
Et donc pour vous, l'identité nationale, ça n'est pas une essence naturelle, c'est une, je vais pas dire construction, parce que tout de suite on serait peut-être dans une polémique un peu simpliste, mais en tout cas, ça relève d'une écriture, d'un récit, d'une histoire.
C'est ça, et c'est vrai que c'est une écriture qui se fait à la fois par la société civile, mais aussi par l'État. L'État en est le dépositaire. Les campagnes électorales sont le lieu d'autoréflexion, où on réfléchit un peu sur son identité. Le grand reproche qu'on fait au roman national, c'est de dire, on pense le roman national comme un roman immédiatement nationaliste et patriote, voire un peu fasciste. Mais c'est pas une nécessité. C'est-à-dire, on peut très bien envisager une histoire en la critiquant, en la réexaminant régulièrement. Donc, mais je pense que sans cette histoire-là, sans cette identité nationale, déjà je me pèse les mots en étant un peu provocateur, sans cette identité nationale, la collectivité n'aurait aucun sens.
À condition qu'elle soit compatible avec les quatre autres dimensions et qu'elle ne les absorbe pas plus que les autres ne devraient l'absorber.
Absolument. Là, il n'y a aucun risque.
Il n'y a aucun risque dans votre système, après, dans la réalité.
Dans la théorie, on est bien d'accord.
Ce qui est important maintenant, c'est de voir comment, dans cette démocratie, intervient un débat. Comment le débat est-il compatible avec le pouvoir? On va y revenir dans un instant, mais vous nous avez proposé, pour jalonner cette conversation, une chanson très appropriée, Pierre-Henri Tavoyau.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
C'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. J'aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles, paroles.
Je te jure.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, les conditions du débat. Ce soir, notre quatrième rencontre où l'on voit que les conditions du débat sont du côté de la démocratie, du démos, le peuple, mais aussi du pouvoir, le kratos, le kratein, et sans doute aussi de la parole. Pierre-Henri Tavoyau, avec qui nous discutons ce soir, et vous avez proposé pour parler du débat, cette chanson Parole. Et alors, est-ce que c'est pour dire que les paroles ne servent à rien ou au contraire que c'est le cœur de la vie humaine?
Oh, vous savez, c'est adage fameux, alors que j'ai retrouvé, c'est un propos de Jean-Louis Barrault qui dit la tyrannie c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours.
Ouais.
Voilà, c'est fameux. Il y a un petit peu de ça, pour le meilleur comme pour le pire. Et pour le meilleur, c'est, je trouve que ça crée la convivialité.
La parole,
causer toujours, de refaire le match. Voilà, et ce qu'on est en train de faire finalement, c'est essentiel et c'est absolument important. Alors,
mais,
pour le pire,
mais vous avez
pour le pire,
mais, vous
oui,
avez
parce que c'est
mais.
De confondre conversation et délibération.
Alors là, on est au cœur du sujet vraiment tout de suite, Pierre-Henri Tavoyau, de nouveau. C'est-à-dire que dans votre livre, vous assumez donc l'idée que la démocratie ne consiste pas seulement à critiquer le pouvoir, mais aussi à le rendre possible, et à rendre possible des actions, des décisions, de certains qui décident pour d'autres qui obéissent. Ce sont des modalités très précises. Et là, c'est pareil, vous dites, au fond, il ne faut pas que l'idée de délibération, de démocratie participative nous trompe. En démocratie, on parle pour décider.
Oui, Frédéric, moi, je pense qu'on a en fait, c'est la définition même du terme de délibération. Délibération, c'est l'examen avant et pour la décision.
En vue d'une décision.
C'est Aristote qui est le plus génial analyste de ça. Je crois qu'on n'a jamais fait mieux depuis. Il dit grosso modo que la délibération, c'est l'organisation du désaccord, même quand on délibère tout seul. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se force à ne pas être d'accord avec soi-même.
Je suis pour ou contre. Examiner le pour et le contre.
Et le contre, on fait une disputation intérieure, comme l'exercice de la Sorbonne de jadis. Ensuite, on délibère que sur des choses qui dépendent de nous. Mmh. C'est-à-dire que la délibération suppose la liberté.
Je peux pas décider si la Terre tourne autour du Soleil ou pas. Par exemple,
c'est dommage,
on pourrait voter là-dessus, oui. Comme le peuple français a voté quand même sur l'existence de l'être suprême dans la Révolution française.
Voilà,
peut-être qu'ils croyaient que ça dépendait d'eux.
Voilà, donc ça, les Français sont assez tentés souvent de faire ce genre de choses.
Que tout dépend de nous.
Voilà, tout dépend de nous. Et puis troisièmement, on délibère pas. Ça, c'est plus intéressant et plus compliqué sur les fins. Pour dire d'Aristote, on délibère sur les moyens. Mmh. C'est-à-dire qu'un médecin ne délibère pas sur savoir s'il doit guérir son patient ou un général s'il doit gagner la bataille, mais comment la gagner et comment le guérir. Et donc, ça marchait bien à l'époque d'Aristote parce que, j'allais dire, pour Aristote, les fins étaient évidentes, elles étaient inscrites dans la nature, localisées dans la nature, comme il le disait. C'est beaucoup plus compliqué pour nous autres démocrates parce que, justement, la nature se tait. Le ciel est vide et la tradition est muette. Et donc, les finalités ultimes de l'existence sont incertaines.
C'est un des éléments très importants dans votre livre, Pierre-Henri Tavoyau. Avant qu'on revienne au débat et à la critique que vous feriez d'une délibération qui ne mènerait pas à une décision concrète, assumée par le politique, il y a cette idée, à la fin de votre livre, qu'en effet, nous sommes dans une situation historique très particulière où il y a eu des finalités évidentes, lutter contre la tyrannie, pour les démocraties, lutter contre telle ou telle forme de totalitarisme. Et aujourd'hui, vous dites que les fins, les buts profonds, la philosophie de l'histoire, finalement, n'est plus évidente. Et du coup, on croit qu'on ne peut plus décider, puisque comme vous venez de le dire très fortement, on ne peut décider que si on accepte une fin commune.
Oui.
Et on ne peut pas discuter de la finalité ultime. Et ça, c'est un peu surprenant, finalement.
Tout à fait, Frédéric. On a en fait une difficulté qui est... On voit bien, les démocraties fonctionnent bien dans les périodes de crise intense. Je veux dire, il y a deux moments récents où ça a bien marché.
Rassurez-nous, dites-les-nous, parce que j'en vois pas tant que ça.
Nicolas Sarkozy, au moment de la crise financière, réagit bien, et sauf probablement le système banquier européen. Alors, certains peuvent s'en plaindre, mais en tout cas, ça a été une action efficace, reconnue par ses pairs. Et puis François Hollande, au moment des attentats, personnellement, je trouve qu'il réagit bien et dans une situation de crise. Quand l'adversité est évidente, la démocratie fonctionne bien.
Parce que là, les finalités étaient claires, vous pensez qu'il fallait sauver, ce qu'il fallait sauver était clair.
Il fallait sauver les comptes en banque des Français, il fallait des Européens, il fallait lutter ou en tout cas réagir face à une menace directe qui avait traumatisé le pays. Et donc là, l'évidence apparaissait. Donc on voit qu'en mode binaire, la démocratie fonctionne bien. Le problème, c'est, si je puis dire, c'est pas un problème, c'est une heureuse nouvelle, c'est que la démocratie est assez rarement menacée de manière aussi vive. Et nous vivons dans un monde très pacifié. Et donc, d'une certaine façon, les finalités n'apparaissent plus clairement. Et donc, il faut les construire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Souvent, certains intellectuels contemporains français, d'ailleurs, disent nous vivons un désert spirituel, nous vivons le matérialisme, nous sommes dans le consumérisme,
oui, c'est les décadentistes
avec une nostalgie du bon vieux temps de la religion qui nous donnait des finalités toutes faites. Je crois que c'est terminé. Et qu'en réalité, on ne voit pas les finalités de la démocratie qui sont extraordinaires. On en parlait tout à l'heure, ça revient au début de la conversation. Nous avons le régime qui fait grandir.
Construire des individus,
faire grandir nos enfants.
Qui sont capables de vivre toutes les dimensions de leur vie, finalement.
Voilà, et ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, dans le monde romain, la majorité est la règle. C'est-à-dire qu'il y a, très peu de majeurs et tout le monde est mineur.
Les femmes,
les enfants, les esclaves, même si on est âgé, il reste le père de famille de 80 ans, même si on en a 50, on est un adolescent. La grande révolution démocratique, c'est qu'on est tous majeurs. Tous majeurs. C'est un truc extraordinaire. Et le but, c'est de nous rendre encore plus majeurs et donc de nous faire grandir collectivement. Jamais la promesse n'a été telle. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on est aussi déçus.
Oui, mais alors, Pierre-Henri Tavoyau, là aussi, on peut se demander, si je reviens, là, vous énoncez la thèse générale de la démocratie, qui va supposer, pour devenir grand et majeur, qu'on puisse discuter quand même, malgré tout. Donc la délibération va y avoir sa place. Mais les exemples que vous avez pris sont des exemples de crise qui ont des motifs quand même vitaux, qui n'ont pas des motifs de construction de soi. C'est-à-dire, c'est sauver l'économie ou bien sauver une nation attaquée par le terrorisme. Et en plus, par des moyens un peu d'exception, malgré tout. Donc, pour que ce soit une crise qui prouve la force de la démocratie, est-ce qu'il ne faudrait pas que, aussi bien dans les deux exemples que vous avez pris, et d'ailleurs, c'était sans doute le cas, quand même, que François Hollande, par exemple, veuille préserver les institutions démocratiques et pas seulement la survie du peuple, et également pour Nicolas Sarkozy, et le fasse par des moyens démocratiques qu'ils ont dû, malgré tout, un petit peu contourner, suspendre dans la question de la crise. Donc, au fond, est-ce que les moyens de la démocratie ne sont pas sa fin, c'est-à-dire préserver la discussion, préserver la délibération, préserver le désaccord?
Je pense qu'ils sont jamais sortis. Là, je suis pas tout à fait d'accord, frère. Ils sont pas tout à fait sortis de
On n'est pas là pour juste refaire le match.
De sortis du cadre démocratique. Je pense que ils ont pris des décisions. Ils ont été soumis ensuite à la responsabilité. Et c'est ça. Il faut pas penser qu'il faut empêcher la décision. Il faut pouvoir la laisser se faire, s'exercer, et ensuite potentiellement la contrôler. C'est-à-dire qu'on a tendance aussi, dans la démocratie contemporaine, à dire il ne faut pas que les politiques décident, il faut qu'on décide à leur place. Mm-hmm. Non, il faut les laisser décider, et une fois qu'ils ont décidé, si on n'est pas content, eh bien on les vire.
Contrôler a posteriori, voilà. Comme un acte de légitime défense, par exemple, quelqu'un doit survivre, après exactement. On le juge. C'est la règle du jugement après coup.
Même le secret défense a un temps limite où on réexamine a posteriori, avant la mort des responsables, si ce secret défense était justifié ou pas. C'est pour ça que je suis, d'ailleurs, très hostile, je le dis clairement, à la démocratie participative ou directe, parce que je pense que là, on se prive de la possibilité même de la décision.
Alors, la tension, donc, le problème de la démocratie, c'est de concilier des principes quand même de délibération, et puis la nécessité, et même le principe de la décision. Et donc, manifestement, vous voyez un risque aujourd'hui pour la démocratie, dans une insistance sur le premier aspect au détriment du second, c'est-à-dire sur une délibération qui n'en est plus une, et qui n'accepte plus que quelqu'un décide, quelqu'un à qui on a confié ce pouvoir.
Voilà,
c'est une question du pouvoir.
C'est presque comme le bac, vous savez, on passe du contrôle terminal au contrôle continu, on voudrait un peu ça pour la politique, c'est-à-dire contrôler en continu le politique et qu'il n'y ait plus de contrôle terminal. Moi, je pense qu'il faut en politique un contrôle terminal. Il faut laisser la paix, entre guillemets, à un candidat, un élu, qui puisse agir. Et à l'inverse, je pense que le contrôle continu comporte un risque, c'est-à-dire qu'on empêche d'agir et aucune décision n'est prise, n'est clairement prise, parce qu'elle est toujours parasitée par des multiples préoccupations. Puis, mon objection, en fait, est une objection de presque de bon sens à l'égard de la démocratie participative. Moi, vous voyez, j'adore la politique, je suis un grand fanat, j'enseigne la politique, je m'intéresse beaucoup à ces questions, mais pour autant, quand je rentre chez moi le soir, j'ai, par exemple, envie de faire autre chose.
Vous voudriez pas être tout le temps dans la délibération permanente.
J'ai pas envie d'être dans la délibération 24 heures sur 24.
Tout n'est pas politique tout le temps.
Les quelques conseils de quartier dans lesquels je vais, ou conseils d'école qui sont des, ou conseils syndicaux de copropriété, qui sont des instances démocratiques, ne m'enthousiasme pas outre mesure, pour le dire rapidement.
C'est un peu fatigant, la démocratie.
Voilà, la démocratie, c'est fatigant. Donc, on oublie une chose, c'est que pour que la démocratie participative existe, il faut que les citoyens participent. Or, sans participation, qu'est-ce qui va se passer? On va créer des institutions qui vont être très rapidement, du fait que les citoyens vont la déserter parce qu'ils ont autre chose à faire, ce que je comprends très bien, moi-même, ils vont être pris par des minorités actives, des gens qui ont intérêt, qui ont envie, qui ont des vraies idées. Et moi, je n'ai pas du tout envie de me laisser déposséder, parce que c'est une forme de dépossession, par des gens qui diront « je suis le peuple », alors qu'ils n'en sont qu'une partie. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de dérive périlleuse, et dans la démocratie délibérative, et dans la démocratie participative, quand on veut l'institutionnaliser définitivement.
Mais pourtant, est-ce que la solution n'est pas dans son institutionnalisation? C'est-à-dire, au fond, on pourrait dire qu'une délibération constante sans cadre serait en effet dangereuse, ne mènerait à rien, mais inversement, une délibération limitée, par exemple, au Parlement ou au pouvoir exécutif, dans la discussion, serait insuffisante aussi. Donc, la solution ne serait-elle pas aussi d'instituer des médiations, des cadres intermédiaires de débat, puisqu'on parle du grand débat?
Mais ce serait, disons, perfectionner la démocratie représentative, ni plus ni moins. Donc là, je suis pas du tout hostile.
C'est plutôt bien.
Ce qui serait tout à fait bien. Mais voyez le grand débat. Pourquoi ça marche? Parce que c'est une opération ponctuelle. Un grand débat sur 3 ans, à mon avis, c'est l'échec est garanti.
Les quelques. Il faut un début et une fin.
Il faut terminer la délibération. L'art de clore les débats, c'est vraiment un art politique
suprême.
Vous avez
vraiment un chapitre intéressant sur ce point. Ouais.
Et voyez, même. Alors on dit oui, mais ça au niveau national, d'accord, mais au niveau local, ça marche. Non. Ça marche pas non plus. C'est-à-dire que les quelques expériences de participatives n'ont, une fois l'effet pionnier lancé, la lassitude arrive très vite. Même les budgets participatifs, d'ailleurs, qui ont existé au départ au Brésil, très intéressant à étudier. C'est très très instruit ces projets. On peut expliquer. Au bout d'un moment, si vous voulez, ça devient une instance représentative comme une autre. C'est-à-dire que vous avez quelques citoyens qui se mobilisent et puis les autres qui s'en désintéressent et ça devient une autre forme de représentation.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Je pense qu'il faut vous accorder cette nécessité de la décision et puis cette responsabilité a posteriori qui fait partie de la démocratie. C'est un point majeur. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui risque de passer à l'as, même dans les démocraties qui ont franchi des paliers, disons, démocratiques importants, qui serait l'émergence non seulement des conflits, parce que est-ce qu'on n'a pas besoin des conflits, malgré tout, Pierre-Henri Tavoyau, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils s'expriment, justement, pour que ça ne devienne pas la guerre qui menace toujours la démocratie, la guerre civile, d'une part, et non seulement des conflits, mais aussi des problèmes, tout simplement. Est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes qui échappent? On a des problèmes aujourd'hui contradictoires, en plus. Des problèmes sociaux qui peuvent contredire des problèmes écologiques. Des problèmes vitaux qui peuvent contredire des problèmes de justice. Donc, l'émergence des problèmes, est-ce que ça ne suppose pas quand même l'expression?
Je pense que votre analyse est là tout à fait juste, et c'est un point capital. C'est-à-dire qu'on voit dans la crise des Gilets jaunes actuelle, c'est que c'est pas le peuple qui surgit, c'est du peuple. Et du peuple, c'est-à-dire une fraction du peuple qui a été oubliée, clairement oubliée. Ce ne sont pas les pauvres, ce sont les gens qui sont ni riches ni pauvres. Ce ne sont pas les gens des métropoles, ce sont les gens de la France périphérique. C'est les gens qui sont oubliés, en quelque sorte, du débat médiatique.
C'était inaudible.
Inaudible. Et donc, alors on dit les invisibles, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ce n'est pas forcément les invisibles, parce qu'on les voyait beaucoup, ils étaient présents. Mais voilà, il y a un moment donné.
Plutôt l'inaudible dans votre thématique inaudible. De l'obéir comme
voilà.
Écoute.
Voilà, ils pouvaient pas prêter, on ne leur prêtait pas l'oreille et on leur obéissait pas en quelque sorte. Alors évidemment, ça a surgi. Ça c'est très positif. C'est le côté extrêmement positif de la crise des Gilets jaunes. Le côté négatif, c'est que il est très difficile de transformer un contre et le contre d'un contre.
Une opposition,
pour,
un conflit en solution.
Ouais. Voilà, en solution. Et donc ça, c'est une vraie difficulté. Et on voit effectivement qu'on a besoin de médiation et qu'on a besoin d'institutionnalisation. C'est-à-dire qu'il faut arriver à capter cette parole, pour lui faire dire quelque chose. Et ça, il faut que les corps intermédiaires fonctionnent. Alors, pour le moment...
Et il faut non seulement trouver une solution, mais que ceux qui sont en conflit accepte la solution. Donc passer de l'opposition à l'acceptation.
Alors, c'est là où je pense qu'on peut être assez optimiste parce que effectivement le mouvement continue, mais pour une autre part, le grand débat fonctionne bien. Et donc
c'est pas forcément les mêmes.
Non, c'est pas les mêmes, mais on voit en tout cas que dans les lieux où le grand débat a du succès, ce sont les lieux d'idonibilité, si je puis dire, c'est-à-dire les lieux où effectivement cette apparence, cette prise de parole manquait. Donc il y a là quelque chose, une réponse que je trouve. J'étais très sceptique au départ, pour tout vous dire. Je pensais que c'était effectivement, comme beaucoup, une sorte de gadget politique. Et je dois dire que j'ai changé d'avis, parce que j'ai participé à un grand débat avec Philosophie Magazine à Lille, très intéressant. Bon, il y a plein de choses à critiquer, mais en tout cas, vraiment, la tenue, la teneur, la civilité qui se manifestait au sens fort du terme dans ce débat était tout à fait impressionnante.
Alors, pour rejoindre un peu ce dont on parlait au début, et la discussion va trop vite, on aura besoin de la prolonger de différentes façons. Est-ce que vous diriez que des deux côtés de cette prise de parole contemporaine, qui sont des médiations spontanées ou construites dans le débat démocratique, est-ce qu'il y a une preuve de maturité ? Autrement dit, là vous venez de parler de la civilité dans le débat organisé tel qu'il l'est par les institutions malgré tout. Est-ce que dans les gilets jaunes aussi, dans ce surgissement des problèmes, vous verriez une dimension de maturité ou vous verriez de l'immaturité ? Pierre-Henri Tavoyau, parce que c'est là que se croisent finalement toutes vos questions.
C'est en effet
question redoutable.
Question redoutable, parce que je crois qu'on ne sait pas encore exactement. Je pense, alors deux choses. Une, soit effectivement le mouvement se cristallise dans une sorte de protestation adolescente et un peu infantile, et dans ce cas-là, la France aura échoué. Soit on parvient collectivement à absorber dans un sursaut et un grandissement collectif, et ce sera positif. Et j'aimerais plutôt, je suis optimiste, donc j'ai plutôt tendance à penser que la deuxième solution est ce qui nous
est possible, en tout cas.
Est possible. Il y a une formule, alors pour tout vous dire, c'est une formule de mon fils, j'ai trouvé assez belle, j'ai pris dans le livre. Les Français sont trop instruits pour être asservis, mais pas assez pour être gouvernés. J'allais dire, on pourrait être instruit par mature.
Qui résiste à des abus, mais après, il n'accepte pas forcément les règles.
Voilà. Et donc, on est dans une période un peu critique, où on est peut-être en train de sortir de l'adolescence, notre démocratie est peut-être en train de sortir de l'adolescence, mais c'est pas encore gagné. Et c'est toujours dans ces périodes que les choses sont un peu tendues.
Mais, justement, quel va être le critère de la maturité démocratique? Quel est le critère qui va pouvoir permettre de décider que finalement, ça aurait été un épisode de maturation? Peut-être que d'autres pays, d'ailleurs, ne sont pas capables de supporter ces éruptions. Est-ce que la maturité, comme le disent certains, la maturité démocratique, comme disent certains psychanalystes, par exemple, c'est justement de supporter ces éruptions adolescentes de refus et d'avoir un cadre qui permet de les surmonter.
Exactement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre formulation. Alors effectivement, il peut y avoir dans des vies démocratiques, dans des espaces démocratiques, des moments où on a le sentiment, et peut-être cela arrive réellement, où l'irruption détruit. C'est pas un scénario totalement impossible. Et puis on a aussi des cadres qui sont des cadres solides et qui accueillent cette irruption et qui sont susceptibles de les accepter, de les accueillir et de leur permettre de s'exprimer comme des bons parents sans être paternalistes.
Alors il y a une toute dernière dimension, Pierre-Henri Tavoyau, que je ne peux pas ne pas évoquer. C'est votre supplément, comme diraient certains, à votre livre, votre post-scriptum. Votre livre se termine, une théorie achevée de tout ce dont on vient de parler et de résumer mais trop vite. Et puis, il y a une sorte de supplément sur le charisme individuel. C'est-à-dire qu'au fond, la démocratie, ce sont ces institutions, ces séparations, cette maturité. Mais il faut quand même une incarnation. Il faut quand même que quelqu'un porte en lui toutes les dimensions du peuple.
Alors, je pense que le peuple ne peut être incarné, mais le peuple a besoin d'incarnation.
Le peuple ne peut pas être incarné, vous voulez dire. Mais il en a besoin.
Le peuple ne peut pas être incarné.
Encore une contradiction de la démocratie.
A besoin d'incarnation. C'est-à-dire, vous savez, il y a une chose que j'ai remarquée en lisant, c'est que je me suis aperçu que les chiffres de l'abstention augmentaient au fur et à mesure que le clientélisme baissait. C'est très désespérant. Parce que vous voyez, moins il y a de parrains.
On vote pour quelqu'un et dès qu'il n'y a plus quelqu'un, on vote plus.
Voilà. Et donc, dès qu'il y a de parrains en démocratie, il n'y a plus de parrains en démocratie, l'abstention augmente. Ce qui est un peu désespérant. Je pense qu'il ne faut pas revenir à l'époque d'avant, mais il faut pouvoir monter, effectivement.
Ça veut dire qu'on vote aussi pour quelqu'un. C'est pas forcément un parrain. Ça peut être simplement un porteur de.
Voilà. C'est pour ça qu'il faut être très prudent sur la réduction du cumul des mandats, des choses comme ça. La démocratie a besoin d'incarnation et surtout en France.
Par exemple, que le fait que le grand débat
Suisse, c'est pas
soit
nécessaire.
Porté par un président de la République, ça ne vous choque pas finalement? Ça, pour vous, ça fait partie de son institution et que d'un autre côté, il y a les Gilets jaunes, finalement, tout ça fait signe
pour la France.
Vers une maturité en France, à certaines conditions.
Oui, parce que la France est un État royal,
les hommes
on
forts,
reste
monarchiste.
En Suisse, par ailleurs, l'incarnation n'a pas lieu d'être. Vous connaissez un homme politique suisse, mis à part Guillaume Tell?
J'allais vous le dire. Mais par contre, dans d'autres pays aujourd'hui, l'incarnation, c'est l'homme fort, c'est la négation de la démocratie.
Donc, mais ça, c'est précisément des hommes forts qui n'ont pas pour objectif de faire grandir.
Merci à vous, Pierre-Henri Tavoyau, d'essayer de nous faire grandir.
Merci à vous.
Matière à penser, notre quatrième rencontre autour des conditions du débat, le peuple, mais aussi le pouvoir, c'est-à-dire la démocratie, avec Pierre-Henri Tavoyau, avec et grâce à Stéphane Desmond, Joséphine Lampreya, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Devine, Frédéric Vance. Je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière rencontre autour des conditions du débat et l'éducation des jeunes, notamment aux médias. À demain.